Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
C'est un texte qui est certainement des plus classiques dans le message de l'Évangile. Je vous invite à ouvrir l'Évangile de Luc. Et peut-être une réflexion qui a son utilité à tout moment, à tout âge de la vie. Une réflexion qui nous est laissée par Jésus. Et c'est vrai que ça va et ça vaut pour toutes les époques. C'est bien de réfléchir aux choses, vous comprenez, parce que on est dans des temps où c'est comme s'il y avait un courant qui emportait les gens et qui finalement les emmène dans tous les sens. On prône la réflexion, c'est vrai, faut réfléchir. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas réfléchir, on s'abstient de réfléchir parce que ça nous entraîne trop loin. Alors justement, Jésus va provoquer, parce que Jésus était quand même provocateur dans son genre, hein, révolutionnaire également, avant bien d'autres, hein, et c'est ce qu'il dit, ce qu'il nous laisse, eh bien, est sensible, susceptible en tous les cas de nous amener à prendre les bonnes options dans notre existence. Alors, Luc, chapitre 12, verset 13. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose de très connu, mais on peut dire beaucoup de choses aussi. Intéressant. Alors ce quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, mais en tous les cas, eh bien, on va se contenter de cet anonymat pour lire la suite. Quelqu'un est venu vers Jésus, il a dit à Jésus du milieu de la foule, il a dû l'appeler comme ça par-dessus les têtes et les épaules de tous ceux qui entouraient Jésus, il lui dit que ceci, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Ce que Jésus va répondre au homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de tout affarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? Et l'image qui est prise ensuite, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai point de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, bois, mange et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est de même, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Voilà, je crois que cette parabole a été donnée il y a à peu près 2000 ans environ, et elle serait donnée encore aujourd'hui sous une forme ou une autre, mais en gardant le même caractère, le même esprit. Je pense que ça tomberait juste avec la société dans laquelle nous vivons. Société de consumérisme, société de consommation, société où, eh bien, semblerait que les gens sont tombés en addiction par la nécessité d'acheter, de consommer, de vivre pleinement, s'imaginant que plus on est riche ou plus on consomme, eh bien, c'est la réponse à toutes nos insatisfactions, à tout nos tourments intérieurs, et on pourrait en ajouter bien, bien d'autres. Et c'est vrai qu'on fait la constatation que nous sommes dans un monde malade. D'ailleurs, malade parce que déséquilibré. Et si l'on s'en tient à tous ces moyens modernes de marketing, de publicité, c'est un véritable bombardement. Hein, que ce soit dans la presse écrite ou télévisé d'une manière ou d'une autre, on peut regarder de droite et de gauche, c'est incontournable. On est sollicité à la consommation, même quand vous avez, on vous dit, vous n'en avez pas assez. Hein? Et même quand vous n'avez pas d'argent, on vous dit, mais c'est pas grave, si vous n'avez pas d'argent, on peut vous arranger quand même quelque chose. Voilà, et puis vous connaissez un petit peu ce processus et ce système qui fait que à un moment donné, quelquefois, il y a des prises de conscience, et une fois qu'on s'aperçoit que on est endetté, le surendettement, c'est quelque chose. Hein. Je crois qu'on est près d'un million en France maintenant avec la misère. Ah oui, on peut parler de misère, parce que bon, les gens, à un moment donné, sont pris à la gorge et les pouvoirs publics sont obligés de prendre des dispositions, faire des lois en disant voilà, ceci et cela. Et on peut dire que ça devient infernal. Voilà. Parce qu'on est dans cette société-là. Alors, naturellement, hein, la convoitise des yeux y est pour quelque chose, exploitation. L'orgueil de la vie, si on reprend ce que nous dit Jean, voilà, si je n'ai pas ceci, si je n'ai pas cela, je suis pas comme tout le monde, et quelque part, on s'aperçoit qu'il y a une multiplication de thérapies pour essayer de délivrer les gens, et voilà, beaucoup de choses. Et on sait ce qu'il en est avec des gens malheureux, avec des gens qui n'arrivent plus à faire face, avec des séparations, avec des querelles, avec... C'est un drame! Vraiment, c'est un drame. Des médicaments, parce qu'on ne peut plus dormir la nuit, parce qu'on est obsédé par nos créanciers. Enfin, voilà. Alors, cette histoire, elle pourrait très bien cadrer dans notre monde à nous aujourd'hui. Elle serait vraiment à sa place. Mais comme Jésus a parlé, et que quand il a dit ces choses, c'était un état, finalement, latent chez l'homme, toujours, hein, on voit, c'est quelque chose. Alors, on va essayer de réfléchir sur la question et comprendre ce que Jésus veut nous dire, hein, pour nous interpeller à bien faire attention entre les buts de l'existence et les moyens de l'existence. Et aujourd'hui, les buts, où sont-ils? Vous savez, si on pose la question, on va peut-être trouver peu de candidats hein, à la chose, à la réponse. Alors, les moyens, ça c'est certain qu'on les a multipliés. Et l'histoire, enfin, la réponse que Jésus va nous donner, vous avez remarqué, c'est toujours quelqu'un qui lui pose une question à Jésus, que ce soit un de ses disciples ou quelqu'un qui passe, comme celui-ci. Un homme qui n'est certainement pas de mauvaise foi, il pense que Jésus est un maître, quelqu'un qui peut lui donner une réponse sage, parce qu'il a un gros problème. Et il vient vers Jésus et il va l'interpeller au milieu des autres, au milieu de la foule. Quand on a des problèmes d'héritage, vaut mieux pas faire part à tout le monde. Hein. Mais enfin bon, apparemment, il a pas l'air d'avoir ses scrupules. Il crie et il dit voilà, tout simplement, eh bien Jésus, moi je voudrais te poser une question. J'aimerais bien que tu dises à mon frère, tu le connais mon frère ? Je ne sais pas hein, qui c'est, mais j'aimerais bien que tu dises à mon frère, ça aurait pu être sa sœur aussi, de partager avec moi notre héritage. Quel embarras! Alors il a dû y avoir certainement, il a dû y avoir maille à partir entre les membres de la famille, entre ses deux frères, hein, et il n'a pas dû lui dire très content, enfin en tous les cas, il n'était pas content contre son frère, et il prenait Jésus comme juge, hein, comme quelqu'un qui pouvait démêler. Qu'est-ce que l'on fait dans cette affaire? Eh oui, oh, ça nous rappelle aussi... Une autre parabole, vous savez, la parabole du fils prodigue, il y avait deux frères, il y en a un qui a ramassé une partie de l'héritage et puis l'autre qui est resté. Remarquez, le deuxième n'avait pas forcément bien digéré la chose, hein. Parce que de la manière dont il a accueilli le fils prodigue quand il est revenu, on comprend un petit peu, hein, ce qui s'est passé parce que tout le monde en a pris, là, hein. Le père, le frère, etc., etc. Alors, j'aimerais que tu viennes voir, tu prennes quelques instants. Tu as bien quelques minutes, hein. Tu vois, mon frère, là-bas, il est caché, mais il veut pas trop se montrer. Alors, j'aimerais bien que tu viennes le lui dire, de lui faire la morale, en quelque sorte, parce que c'est pas normal. Tu te rends compte? On avait un héritage. Il en a pris 50%, et moi, j'en ai 50%. C'est pas juste, quand même. Je sais pas, vous réagissez pas, non? Ouais, ou alors vous dormez. Mais toujours est-il que, voilà, bah, voilà. Alors, je ne sais pas, soit il voulait 70% et puis que, voilà, l'autre soit lésé, ou alors, à ce moment-là, l'autre, vraiment, c'était quelqu'un de pas bien du tout, et qui avait pris 80%, il lui restait 20. On comprend qu'il soit pas content. Enfin, de là, aller déranger Jésus pour une histoire pareille, ce que Jésus va finalement, eh bien, répondre, il lui dira, mais, qui m'a établi pour être votre juge, ou de faire vos partages? Pour cela, il y a quand même des gens tout à fait habilités, et Jésus va se dégager de cela. Il va dire, écoutez, c'est vos affaires, ce sont vos affaires, moi ça ne me regarde pas. Et on sait très bien que Jésus a toujours eu un regard tout à fait particulier par rapport à l'argent. Hein? Dans la Bible, il parle avec beaucoup de sagesse, de la gestion finalement des biens. Hein? Il avait mis quelqu'un de qualifié d'ailleurs, hein? Il s'appelait Monsieur Judas pour tenir la bourse. Après, bon, c'est vrai que c'était pas tout à fait l'homme qui était tout qualifié pour cela, mais il donnera, par exemple, dans la parabole, ou dans cette ce comportement que nous devons avoir avec les autorités, là aussi Jésus a évacué un petit peu la question, mais d'une manière très claire et honnête. Il dira « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Alors, on va pas, hein, on pourrait dire beaucoup de choses sur la question, mais toujours est-il que Jésus s'est débarrassé de cela en disant « Mais ce sont vos affaires », comme si c'était l'essentiel. Moi, j'ai autre chose à vous donner, j'ai autre chose à vous dire. Et puis, ça sera l'occasion de, pour Jésus, eh bien, de donner en quelque sorte une morale à tout cela, à ce comportement humain. Il dira, mais vous savez, vous voulez être heureux, vous voulez véritablement réussir dans la vie, il y a une chose qu'il faut faire, c'est pas l'argent qui est un problème, c'est votre cœur. C'est lui qui est un problème par rapport à l'argent. Là où sera ton cœur, sera ton trésor, et dans l'autre sens également. Hein. Alors il dira, mais gardez-vous de toute avarice. Ah, ça c'est pénible. Alors il y a des gens qui sont très dépensiers, qui mettent tout, hein, qui dépensent tout. C'est un petit peu le problème de cette addiction à l'argent que les gens aujourd'hui, hein, ce sont des tocs, hein, troubles obsessionnels compulsifs. Dès qu'on a un peu d'argent, on ne peut pas le garder parce qu'il faut... voilà, hein, il faut le dépenser parce qu'il y a peut-être là un apaisement, une satisfaction. Et puis il y a le contraire. On appelle ça comment ? Ça commence par un R. Ah bon ? Rabbin ? Ah oui ! D'accord. J'avais pas entendu, mais enfin j'ai le temps quand même. Mais voilà. Et ça, ce sont les extrêmes, c'est terrible. Hein. Le Seigneur va nous enseigner, parce que j'ai pas lu la suite, mais je vais pas le commenter parce que vous êtes là jusqu'à mercredi soir. Mais une chose qui est certaine, il nous a demandé de ne pas être insouciant comme le premier, le cas que nous allons voir, de se moquer de tout et pourvu qu'on a de l'argent, et d'être insoucieux comme la deuxième proposition. Quand il est dit ceci, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez faire, ou de ce que vous allez boire ou vous vêtir. Insouciant d'un côté et insoucieux de l'autre. Alors Jésus, pour dire, eh bien, il recommandera de ne pas être avare. Et je suppose que la question de notre brave frère par rapport à la concurrence qu'il avait auprès de l'autre membre de la famille, c'est qu'il devait y avoir un problème d'avarice. Mais Jésus l'avait vu, hein. Je crois que ça ne faisait pas de doute. Hein. Et il ajoutera ceci, mais la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Eh oui, on a le nécessaire. Nous pouvons en bénir le Seigneur. C'est bien, c'est formidable. On pourrait être plus riche qu'on l'est, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plairait? Vous ne souhaiteriez pas être plus pauvre que vous ne l'êtes. Je retourne les questions un petit peu dans tous les sens pour vous faire réagir. Mais c'est vrai, on a ce que l'on a, on s'en contente et c'est bien. Merci Seigneur, parce que vous savez qu'il y en a qui ont beaucoup moins que nous. Et ça, faut y penser. C'est vrai qu'on pourrait avoir davantage. Mais Jésus nous prévient qu'il y a des riches malheureux et des pauvres heureux. Enfin, je sais pas comment on peut dire les choses. Mais, parce que peut-être les motivations et les mobiles sont pas du tout les mêmes. Et la source n'est pas la même, surtout. Parce que c'est pas un problème d'euros, d'argent. C'est un problème de position de cœur. Et ça, c'est une autre affaire. Et Jésus est venu pour traiter les affaires de cœur et non pas les affaires, voilà, indifférente de la vie, l'argent, la situation, la promotion et tout ce que vous voudrez. Alors il dira, mais la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il était dans l'abondance. Puisque, faut quand même le reconnaître, on a tellement d'exemples autour de nous, de gens qui sont convoités, qui sont adulés, dont on rêve, peut-être, d'avoir la part. Et on sait très bien, on le voit, parce que ça défraie la chronique à un moment ou à un autre, que ce sont des gens qui sont profondément malheureux. On pourrait dire qu'ils sont malheureux d'être heureux. C'est peut-être ça, quelque part. C'est vrai. Mais, vous savez, quand on a tout goûté, quand on a tout essayé, quand on dispose de tout, quand on est le roi de tout, qu'est-ce qu'il nous reste à ce moment-là? On a les moyens, mais on n'a pas la vie. Parce qu'on peut avoir aussi le cas contraire, où des gens sont si peu fortunés, sont quelquefois juste à la limite, pour pourvoir, pour satisfaire à leurs besoins, et on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est rayonnant. Parce que le vrai trésor, il se trouve, eh bien là, pas là où on le pense. Et je crois que le message de l'Évangile est là pour nous remettre un petit peu les choses en place, pour nous dire attention, l'extérieur c'est une façade, L'extérieur a sa raison d'être, c'est sûr, et on a besoin de certaines choses. Mais le plus important, c'est l'intérieur. Dans la suite, la parabole qui est donnée, quand il est question de ne pas nous inquiéter de ce que nous mangerons et ceci et cela, parce que Jésus nous dira, mais attendez, la vie, c'est plus que le vêtement, la nourriture et tout le reste. Parce que si vous avez de la nourriture et si vous avez le vêtement et si vous avez une belle maison et que vous n'avez pas la vie, ça ne sert à rien. C'est pour cela qu'il faut faire bien attention. Et je dirais que même, autant que je m'en souvienne, Paul mettra l'accent et il soulignera une chose, une vérité spirituelle à haut niveau. Il dira, mais quand bien même notre homme extérieur se dégrade par le temps, par l'usage, par l'usure du temps, et il dira, mais notre âme intérieure, notre être intérieur, lui, se renouvelle jusque dans la vie éternelle. Et c'est ça ce que Jésus a voulu nous faire comprendre. Alors il dira, mais quand bien même un homme aurait une richesse, il serait dans l'abondance, eh bien, finalement, c'est pas ça ce qui fait le bonheur. Ouais. Et je pense que ça, c'est une mentalité, c'est une conception qui doit être la nôtre en tant que chrétien. Et chacun d'entre nous, par l'expérience que nous avons pu en faire, dans la connaissance que nous avons de Dieu et de Jésus dans notre vie, on s'aperçoit que on n'a jamais été très riche. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous n'avons jamais manqué de rien. Et quand les choses ont dû être acquises, peut-être par le travail ou par l'effort et toutes sortes de choses, vous savez que ça a une plus grande valeur que quand ça tombe tout seul. Il y a des gens, vous n'avez pas entendu ? Il y a quelqu'un qui a été écrasé dernièrement. Il a gagné au loto. C'est trop lourd. Et quand vous gagnez 22 millions, vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous en faites ? Ah, je ne vais pas vous laisser réfléchir longtemps, je continue, parce qu'autrement vous allez gamberger. Mais 22 millions, imaginez-vous ! Qu'est-ce que je pourrais faire avec 22 millions ? Ah, dites donc, hein. J'ai jamais réfléchi à la chose. Mais ça doit être terrifiant, hein. Parce que là, vous avez beaucoup d'amis à ce moment-là. Tous les banquiers vont vous téléphoner, les assureurs vont vous téléphoner, des gens que vous connaissez pas. Ça va être formidable. Alors là, vous allez avoir du monde chez vous, hein. Ben oui. Mais il y en a qui ont perdu la tête. D'ailleurs, à la Française des Jeux, il y a tout un, comment on pourrait dire ça, un département pour aider les gens à gérer, comment peut-on dire, le magot, hein, c'est ça. Hein. Vous vous rendez compte ? Alors après, vous finissez chez le psychiatre. Bon, quel intérêt ? Alors, sera-t-il dans l'abondance ? Et Jésus va nous donner cette belle petite parabole pour remettre les choses à leur place. Alors la parabole, vous la connaissez naturellement. Et il prendra certainement une image qui est accessible à tous les hommes de son temps, comme ça peut l'être aussi dans notre société d'aujourd'hui. Et il noue les terres d'un homme riche. Il était déjà riche et il va devenir encore plus riche. Voilà. Et il avait beaucoup rapporté, ses terres avaient beaucoup rapporté. Et il réfléchit, parce que c'est un homme bon de bon sens, un homme d'affaires, nous pourrions dire. Voilà. Un homme qui avait certainement, il n'y a rien à dire sur le plan moral, rien n'est dit d'ailleurs, hein. Mais il avait certainement, eh bien, là, des ouvriers, il avait embauché des domestiques, et ça devait être, il devait être très nombreux, donc il faisait une œuvre sociale. C'était monsieur, hein, dans la région, quand on parlait de monsieur un tel, avec ses terres, etc., comme un industriel d'aujourd'hui, peu importe. Voilà, c'était un homme qui faisait du bien parce que il avait su gérer son avoir et le partager avec les autres. Très bien. Il avait beaucoup rapporté, donc, ses possessions. Alors, il raisonnait en lui-même. Il ne l'avait pas dit à quelqu'un, il se l'est dit à tout seul. À la différence peut-être du chrétien, c'est que nous en parlons à Dieu, mais lui, il se le parle à tout seul. Et vous allez voir que son raisonnement, il ne tourne qu'autour de lui, parce qu'il a un gros problème, je vais vous le dire d'ici quelques instants. Il raisonnait en lui-même en disant, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon argent ? Vous avez réfléchi, vous ? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent ? C'est peut-être pas un problème, après tout, hein ? Oui, tranquille, hein ? Mais vous avez raison d'être tranquille. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Et il dit, je n'ai plus de place. Ça, c'est un problème pour rentrer ma récolte. Et à un moment donné, Eureka, ça lui vient à l'esprit. Et il dit, ah, voilà, j'ai une idée. Voici ce que je ferai. Il a des projets. Voilà. Il a bien considéré les choses. Il sait où chaque chose se situe. Et c'est un bon gestionnaire. Alors, il dit, voilà, j'abattrai mes greniers, qui sont trop petits. J'en bâtirai de plus grands, évidemment. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Ça, c'est une noble ambition. Voilà, parce que premièrement, il va faire encore travailler des gens. Il faut d'abord déconstruire, ensuite construire. Et puis, avec un nouvel espace, avec peut-être des choses beaucoup plus appropriées à eh bien, l'importance de son avoir, de ses biens. Et il se dit alors à ce moment-là, eh bien, vraiment, c'est formidable. Et à la fin, il réfléchit encore une fois, mais il pense. Et il dit, je dirai à mon âme. Voilà. Il se parle à lui-même. Ça vous arrive de dire à mon âme, à votre âme, pardon? Non? Vous ne parlez pas à vous-même? Mais si, vous parlez tous les jours, non? Hein? Vous écrivez pas? Non. Bon, si vous parlez, c'est déjà pas mal, parce que ça, c'est quelque chose d'inconscient, naturellement. Alors, je dirai à mon âme, voyez comment il l'appelle. Hein? Moi, c'est comme si je disais Alain, voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire ça. Je m'appelle jamais vraiment par mon prénom, hein? Je laisse aux autres. Hein? Alors, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Satisfaction, oh, quelle satisfaction! Plusieurs années, il est tranquille, sa sécurité, c'est ce qu'il a. Ouais. Il n'a pas d'autre sécurité que son avoir, que son compte en banque. Il reçoit ses relevés comme vous les recevez vous-même, hein, de la banque postale. Et puis, il regarde toutes les semaines en disant, mais ça augmente de plus en plus. C'est formidable. Parce que, vous savez, Jésus nous dit une chose, que on donnera à celui qui a et on notera même celui qui n'a pas. Et on a remarqué une chose, il y a un phénomène assez particulier, que quand on a toujours plus. C'est pas juste, hein. Enfin, apparemment, ça semble pas juste, hein. Alors, il considère les choses pour plusieurs années et il se dit, maintenant, t'as tellement travaillé. Regarde, le fruit de ton travail, il est satisfait. Ce sont ses efforts. Il n'y a rien d'autre à dire. Il dit, tu te reposes, tu manges, tu bois et te réjouis. Alors, c'est bien de se reposer quand on est fatigué. C'est bien de manger, mais gare à l'obésité. C'est bien de boire, mais modérément. Et puis, de se réjouir, mon frère. On ne peut pas se forcer à rire, hein. Continuellement. C'est vrai, c'est des choses qui sont... voilà, c'est dans le temps et les circonstances que les choses viennent, et on vit les choses, c'est pas nous qui appuyons sur un bouton, qui déclenchons ceci et cela, en disant ce matin, ou demain matin, je vais être heureux. Enfin, je sais pas, mais c'est pas forcément évident, hein. Heureux de ceci et cela, parce que quelquefois, vous savez, on peut avoir les sources de réjouissance, et puis il y a une contrariété qui arrive, ou une vexation, puis là, vous avez vraiment plus envie de rire, hein. Même si vous avez beaucoup, hein. Voilà, c'est comme ça. Et il pense que c'est lui qui maîtrise les choses, et c'est son problème. Cet homme avait un péché cardinal, c'est que tout tournait autour de lui. Et ça s'appelle, d'un mot que vous connaissez, l'ego, l'égoïsme. Parce que quand nous regardons, et je le signale à chaque fois que je commande ce texte, que ferai-je ? Je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voilà ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, voilà, il se parle à lui-même naturellement, repose-toi, mange, bois et te réjouis. Ça ne tourne qu'autour d'une personne, c'est lui-même. Et ça, je crois que c'est le péché des péchés. Ouais. Les autres existent accessoirement dans le cadre de son enrichissement, et ils en bénéficient, c'est vrai, mais il oubliait l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que celui qui est l'auteur de cette bénédiction, si on considère que c'est un juif, celui qui est à la base de tout ce que cet homme a réussi, entrepris, avec le succès que nous connaissons par cette petite parabole de Jésus, eh bien c'est que le grand oublié, c'est Dieu. Il a oublié que tout cela, c'était des moyens, et qu'il y avait quelque chose de plus important, c'est qu'on peut bien gagner tout le monde. Que servirait-il à un homme s'il gagnait le monde entier et qu'il perdait son âme ? Dixit Jésus aussi. Et là, c'est le grand oublié. Vous savez, nous sommes dans une société où le grand oublié de notre temps, de nos temps, c'est Dieu. Ah oui ? Ou alors, si l'on parle de Dieu, on va baisser un petit peu le niveau. Des dieux, il y en a partout, hein. Le dieu argent, le dieu sport, le dieu contentement, le dieu bien-être, le dieu de ceci, le dieu de cela, avec une véritable idolâtrie, parce que c'est une prosternation, c'est une adoration. Hey. Essayez de dire quelques paroles sur les faux dieux des hommes, vous allez voir un peu l'agressivité. Et vous allez voir la réaction, hein. Ils ne veulent pas en entendre parler, hein. Alors, moi je dis que Jésus est d'une sagesse céleste. Pour nous ramener à la raison, et pendant des millénaires et des millénaires, pendant des siècles et des siècles, pour ne parler peut-être que de l'Évangile, des hommes et des femmes de par toute la terre, se sont inspirés de ces paroles de Jésus, pour y trouver le bonheur, pour y trouver le salut, pour y trouver le contentement et pour trouver une destination, une raison de vivre, et une vraie raison de vivre. Que servirait-il à un homme, finalement, de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il y a eu dans l'histoire des hommes richissimes, ouais, avec des empires. Ils ont peut-être commencé avec pas grand-chose, et je me souviens toujours cette histoire, vous avez peut-être entendu, maintenant il est mort depuis une trentaine d'années, c'était un Italien, il s'appelait Paul Getty, un homme qui faisait partie des hommes les plus riches du monde. Et il a terminé sa vie, les quelques dernières années de sa vie, les 10 dernières années de sa vie, alors qu'il avait un empire. Il s'était renfermé dans sa maison, plus personne était autour de lui. Et il est mort dans la plus grande des solitudes. Il ne voulait voir plus personne et personne n'allait plus le voir, parce que c'était un homme profondément malheureux. Ah, il avait les moyens, mais il avait zappé sur l'essentiel, finalement, de son existence. Et il y en a d'autres. J'ai entendu parler de Marlon Brando, un acteur américain, lui aussi a terminé dans des conditions pareilles. C'est terrible. C'est terrible parce que qu'est-ce que l'on peut faire avec tout cela? On peut avoir beaucoup de choses. Et le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle que un homme peut avoir une fortune, gagner une fortune, la léguant à son fils et que son fils dilapide tout. Hein, c'est écrit ça très souvent dans le livre des Proverbes, Ecclésiaste ou Proverbes, peu importe. Alors, mon âme, tu as bien beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, maintenant tu te donnes la vie. Mais n'avait-il pas vécu jusqu'alors? Si, il avait vécu pour une chose, pour lui-même. Et on voit qu'il ne s'est pas conjugué avec d'autres formes que le « je » ou que l'adjectif possessif « mon, ma, mais, ceci et cela ». Ouais. Jésus en tirera la conclusion d'ici un instant. Mais Dieu lui dit, c'est une parabole, alors qu'il était en train de prendre ses bonnes résolutions, il avait fait ses projets, il était en train déjà de savourer le bonheur qui serait le sien lorsqu'il serait à la retraite. Il y en a qui travaillent pas mal encore à la retraite, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Mais de dire, eh bien, à ce moment-là, quand je serai à ce niveau-là, eh bien, vraiment, ça sera le bonheur. Il avait trouvé certainement satisfaction dans ses activités, mais il fallait qu'il passe à une autre phase. Il se dit, maintenant, ça y est, c'est bien. Mais à ce moment-là, je vais pouvoir vraiment vivre comme cela, eh bien, est normal. Mange, repose-toi, bois, réjouis-toi, etc., etc. Et il y a cette petite voix dans sa conscience, on peut l'expliquer de cette manière, hein, où il est dit ceci, Dieu lui dit, cette voix de l'esprit, des réalités profondes, véritables et spirituelles, cette voix lui dit, mais tu es un fou, traduit par insensé, celui qui n'a pas de sens, celui qui n'a pas le raisonnement, celui qui n'a pas les vraies valeurs, celui qui ne sait pas ce qu'est la vraie vie. Il dira, mais insensé, et si cette nuit même, ton âme, ou cette nuit même, ton âme te sera redemandée? J'espère que je ne vais pas vous faire peur. Hein. Oh. C'est pas votre cas. Mais c'est le cas, en tous les cas, de cet individu, comme des millions et des millions d'individus qui zappent sur l'essentiel. Ouais. Parce que, je terminerai sur le sujet. Mais qui peut dire qu'il connaît ce que sera demain, ce que sera après-demain? Voilà, aujourd'hui nous sommes en bonne santé, nous sommes vivants et nous bénissons le Seigneur, et nous souhaitons naturellement d'avoir la plus longue vie possible et la plus agréable, et dans les meilleures conditions. Mais personne ne peut le dire. Ça c'est un mystère. C'est pour ça que Jésus voudrait nous tranquilliser. Il nous dit, mais chaque jour suffit sa peine. Ne vis pas pour ce que c'était hier, ne vis pas pour ce que sera demain parce que tu ne le sais pas, mais chaque jour suffit sa peine et vis à ce moment-là. C'est le temps présent qui est le plus important. Alors, ton âme te sera redemandée ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? C'est pour ça qu'il y mérite l'adjectif d'insensé. Tu es un fou. Parce que tu t'es donné beaucoup de mal. Tu as eu beaucoup de préoccupations pour avoir ce que tu as, et ce que tu as, eh bien, ça ne te servira à rien. Vous savez, ils sont rares, hein, les corbillards, quand il y a un camion de déménagement qui suit. Parce que quand on meurt, on n'emmène rien avec soi. Hein. Eh oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui est quand même... Non, On n'est pas des pharaons. Parce que quand les pharaons ont déménagé, ils avaient des petites maisons d'ailleurs, hein, très modestes. Mais ils emmenaient tout avec eux. Hein. Et le plus terrible, c'est qu'ils faisaient tuer leurs femmes, ils faisaient tuer leurs ennemis, enfin, ou leurs amis. Ah oui, ils voulaient pas y aller tout seuls. Hein. Et dans bon mal de sociétés primaires, nous pourrions dire que c'est ce qui se passait. Ils emmènent tout. Hein. Voilà. Mais nous, on n'emmènera rien. Qu'est-ce que notre corps? Si véritablement il n'y a pas l'essentiel, l'âme et l'esprit. C'est ça ce que Jésus veut nous signifier. Alors, pour qui sera-ce? J'ai cette parole dans le livre de l'Ecclésiaste où il est dit ceci. Et j'aimerais vous lire simplement le texte. Oh, c'est dans Ecclésiaste chapitre 8 et verset 5. Ça va peut-être un petit peu éclairer davantage ou donner une petite lumière supplémentaire à ce que nous disons à notre propos. Et il est dit ceci au chapitre 8 et au verset 5 à 8. Écoutez bien. C'est vraiment beaucoup de sagesse. Il est dit celui qui observe le commandement s'entend, le commandement de Dieu, la parole de Dieu, l'avertissement de Dieu. Car Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, hein, vous savez. Alors, celui qui observe le commandement et s'il entend l'écouter, ne connaît point de choses mauvaises. Et c'est vrai. Je crois que c'est une vérité qui est soulignée ici. C'est que si nous voulons vivre heureux, vivons avec ce que nous avons dans la pleine satisfaction de ce que Dieu nous donne, en reconnaissant que c'est sa main qui nous bénit. C'est pour cela qu'il y a un terme, rendez grâce au Seigneur. Alors il ne connaît point de mauvaises choses, et le cœur du sage connaît le temps, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement, il sait. Un chrétien sait les choses qu'il faut nous préparer, qu'il faut que nous soyons prévoyants, parce que c'est pas négatif la prévoyance, de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et là, nous pouvons vivre en paix. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. C'était bien le problème de notre brave cultivateur qui lui avait certainement fait toutes sortes de réflexions prospectives, peut-être pourrait-on dire, sur son avenir. Il avait fait ses comptes, ses calculs, mais il avait oublié une chose, que c'était pas lui qui était maître de sa vie. Alors, qui lui dira comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On vit des moments, et on peut saluer peut-être l'habilité ou la compétence des hommes en matière de médecine pour prolonger la vie, c'est vrai. Mais ça ne change rien, sinon le temps qui nous est alloué, ou la durée, ou le rallongement de notre vie, mais quand il faut partir, il faut partir. Et il y en a qui partent beaucoup plus vite que, vous savez, ceux qui partent dans les accidents, hein. C'est rapide. Parce qu'il n'y a point de délivrance dans ce combat contre la mort, contre toutes ces incertitudes, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ou même la compensation du mal par le bien. Parce qu'on ne se rachète pas de cette manière. C'est le psaume 49 qui nous dit que, de toute façon, l'âme humaine ne peut pas se racheter de cette manière. Il n'y aura pas de rachat. Parce que le seul rachat possible, ce n'est pas de faire des compensations, ce n'est pas d'essayer de faire valoir nos mérites et nos qualités d'homme. La seule chose, c'est ce qu'on va terminer sur le sujet, c'est la foi en Dieu, tout simplement. C'est la seule chose qui puisse nous sauver. Et puis, un deuxième argument en faveur de notre réflexion, Ecclésiaste, chapitre 9, et versets 11 et 12. Et il est dit ceci, « J'ai vu encore sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège, etc. 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 » En matière de prévoyance, ou en matière de réflexion, en matière de véritable valeur, il nous est dit, ce ne sont pas les agiles, ceux qui remuent dans tous les sens et qui se disent un jour ou un autre, par ma force, je m'en tirerai, par mon intelligence ou par ma subtilité, ou par ma connaissance, je m'en tirerai. Ni la guerre aux vaillants, hein, parce qu'il y a des vaillants qui meurent à la guerre, hein, qui sont tués comme les autres. Voilà, les héros savent aussi mourir, ils peuvent mourir. Hein. Ni le pain aux sages, les richesses aux intelligents, ni la faveur aux savants, parce que Le livre de l'Ecclésiaste nous dit que plus nous avons de la connaissance, plus nous souffrons. Ça n'encourage pas, hein. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rester ignare. Au contraire, mais de la vraie connaissance. Et la vraie connaissance, elle nous est donnée d'une manière admirable par tout simplement Jérémie qui nous dit ceci, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Ah, l'homme est fort pour défier Dieu, vous comprenez? Il sait plus que Dieu sait. Il connaît mieux les choses que Dieu. Et le fort ne se glorifie pas de sa force. On en a vu d'autres, hein. Le petit Goliath, vous savez comment il a fini? Il pensait être le plus fort, hein. Et le riche ne se glorifie pas de sa richesse, c'est ce que nous avons vu. Mais que celui qui veut se glorifier, si vous voulez avoir un tant soit peu, finalement, eh bien, de dire « Merci Seigneur parce que tu m'as béni et parce que je suis quelqu'un, mais sous ton regard et seulement sous ton regard, alors que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître. » C'est bien ça la question. Et je crois que nous faisons partie et nous voulons faire partie des gens qui connaissent le Seigneur. Parce que lui, il est le maître et nous sommes. Nous sommes pas grand-chose. J'espère que ça vous choque pas. Parce qu'à partir du moment où nous considérons que nous sommes rien et qu'il est tout, eh ben, ça change véritablement les données de notre vie. De savoir que je suis l'Éternel et moi l'Éternel, continue Jérémie, parce que j'exerce la bonté, j'exerce le droit et la justice, et c'est à cela que je prends plaisir, dit Dieu. Eh oui. Ce que Dieu est, vous entendez toujours le même message. Toujours le même message, il est toujours fixé sur la même chose, il est basé, il est orienté sur les mêmes fondements, c'est la foi, c'est l'humilité, c'est la simplicité de cœur, tout simplement. C'est pour ça qu'on peut l'appeler Père qui est aux cieux, parce que nous sommes ses enfants. Et quand des enfants se révoltent contre leur père, ça ne va jamais très bien, vous comprenez? Ouais. Parce que le Père a de bonnes raisons, de tout. Pour que ses enfants soient bénis, qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent devenir des hommes. Et quand Dieu nous conduit dans un chemin que je ne comprends pas, ou dans un chemin que nous ne saisissons pas, mais faisons-lui confiance. Parce que on sait très bien qu'il nous mènera à quelque chose qui sera au-delà de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons même imaginé. Alors, voilà les choses. La seule vraie valeur, c'est la foi, c'est l'humilité, c'est la confiance, tout simplement. Il en est ainsi, et je conclus, Jésus nous dit, c'est ainsi que les choses sont. Pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu, cette richesse, elle n'est pas faite seulement avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Cette richesse, c'est une richesse de cœur, une richesse de confiance et de foi. C'est une richesse qui va bien au-delà de nous-mêmes. Et si nous donnons la priorité au Seigneur, eh bien nous serons riches, franchement, plus riches que nous le pensons. Et nous aurons de quoi donner à tous ceux qui sont autour de nous aussi. Eh oui, parce que quand un cœur s'ouvre à l'Évangile, c'est aussi ses mains qui s'ouvrent. Et c'est une ressource de bénédiction. Moi, j'ai toujours été étonné que les boursicoteurs, vous savez, ceux qui font, qui misent en bourse, hein, ils ont un avoir, ils lâchent tout. Ils mettent leur avoir en bourse. Alors, il y a eu des temps où c'était plutôt risqué. Mais je vous conseille pas de jouer en bourse. Hein. Moi, je prends pas le risque, hein. Je vous dis rien du tout. Hein. Mais on s'aperçoit que c'est toujours le même principe. C'est le principe du don. Tu donnes, tu perds quelque chose et tu vas gagner toujours de plus en plus. C'est ça. Et celui qui veut garder, parce que c'était le propos, le sujet, c'était l'avarice. Mais quand on garde pour nous-mêmes en disant tout pour moi et rien pour les autres, rien pour Dieu et ceci, c'est le meilleur moyen pour s'appauvrir. Hein. C'est le moyen pour terminer desséché. Et ça s'est vu, hein. Alors que quand Dieu qui vient arroser notre vie, alors à ce moment-là, eh bien, je peux vous dire que c'est une pluie de bénédiction. C'est une grâce que Dieu nous donne. Alors, ce que nous avons entrevu cet après-midi, c'est que nous sommes appelés à ouvrir notre cœur et ne pas confondre entre les moyens et les buts. Les moyens de l'existence, merci Seigneur, tu nous les as donnés. Tu me donnes selon mes besoins, tu me donnes selon ce que je suis capable de gérer et de vivre. Mais pour les buts, l'essentiel, c'est bien toi, hein, le but de la vie. Pourquoi nous sommes ici-bas? Parce qu'il y a une autre dimension qui nous attend de l'autre côté. La morale de l'homme sans Dieu, d'abord il dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et après il est ajouté, tu es un insensé de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais la morale de l'homme qui croit en Dieu, eh bien c'est tout simplement de donner la priorité au Seigneur, de lui donner son cœur, de lui donner sa vie. Alors avec cette vie-là, on l'a vu déjà pour nous-mêmes, c'est une source de bénédiction, une fontaine de bénédiction pour tous les autres. Que le Seigneur nous aide Que le Seigneur nous bénisse cet après-midi et que Dieu nous donne sa grâce. Ne nous trompons pas d'objectif. Ne nous trompons pas, parce que le Seigneur est là pour faire de chacun d'entre nous comme un grain de blé qui en donne, qui va produire 50, 80 et 100. Nous sommes promis à être une bénédiction pour Dieu, une bénédiction pour les autres. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ce message dit et redit, Seigneur. Nous croyons qu'il est aussi en pleine réalité de notre monde d'aujourd'hui, notre monde au quotidien, où il y a en effet cette frénésie, cette fièvre. Oui, Seigneur, de voir les hommes, eh bien, Seigneur, vouloir s'enrichir, vouloir, Seigneur, être vraiment quelqu'un, devenir quelqu'un, parce qu'ils seront remarqués pour ceci ou pour cela, par leur intelligence, par leur capacité, par leur fortune, par leurs avoirs, toutes sortes de choses. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde où tout s'identifie, eh bien, à ce que nous possédons. Mais Seigneur, c'est pas ce que nous possédons. Si nous possédons tout le reste, et que nous ne possédons même pas notre vie, même pas notre propre cœur, alors à ce moment-là, nous n'avons rien, et nous sommes vides. Seigneur, nous te demandons de bien vouloir bénir cette parole. Ce n'est pas la nôtre, mais c'est la parole de Jésus. Il l'a laissée à travers les siècles, et nous croyons que c'est une parole d'actualité, une parole qui a traversé les temps, qui a traversé les sociétés, qui a traversé les civilisations, et nous nous apercevons que le cœur de l'homme est toujours le même, et que cette parole est une parole éternelle, qui a besoin encore, en effet, d'être proclamée, comme elle était proclamée hier, mais encore aujourd'hui et demain, parce que le problème est toujours le même. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te rends grâce et je te remercie de ce qu'il y a eu des oreilles et des cœurs qui ont été attentifs à travers tous les temps, et qui ont véritablement pris au mot, qui ont cru, qui ont fait confiance aux paroles de Jésus. Alors, Seigneur, qui est riche? Oui, en effet, qui est sage? Qui est intelligent? C'est celui qui donne la priorité à ce que tu as dit, et cela pour notre plus grand bonheur. Et ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une théologie, mais c'est tout simplement, eh bien, une parole de bon sens qui vient du ciel pour nous montrer que toi, tu es Dieu et nous sommes les hommes, et que tu veux nous donner, Seigneur, tout simplement, le meilleur de ta bénédiction, et tu veux nous donner l'abondance. Merci Seigneur, parce que le véritable trésor, il commence dans notre cœur, en recevant Jésus comme notre Sauveur et le Seigneur de notre vie. Tu bénis mes amis maintenant. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.